Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour l'émission que nous consacrons chaque mois au 7e art. Nous allons comme d'habitude vous présenter deux films. L'un vient de sortir dans les salles et il est à l'affiche du cinéma L'ABC à Toulouse. Sa réalisatrice s'appelle Louise Courvoisier et il a pour titre « Vingt dieux ». Le second est sorti il y a près de 40 ans et nous plonge dans un tout autre univers puisqu'il s'agit de Thérèse, tournée en 1986 par Alain Cavalier, un film inspiré de la vie de Thérèse de Lisieux. Voilà le programme pour le moins éclectique de ce numéro. Pour vous présenter ces deux films, j'ai invité de nouveau Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue à vous deux, ravi de vous retrouver pour nos discussions cinéphiliques mensuelles. Vingt dieux, c'est le film que vous avez choisi ce mois-ci pour le Ciné-Parole que vous animez à l'ABC mardi prochain, le 17 décembre à 14h30. Il a donc été réalisé par Louise Courvoisier, jeune cinéaste française âgée de 30 ans. C'est son premier long-métrage. Mais Louis-Marie, elle avait tout de même tourné quelques courts-métrages auparavant.
Oui, elle a tourné quelques courts-métrages auparavant, mais elle ne se destinait pas vraiment à... au métier de réalisateur. Elle avait fait d'autres études et puis finalement elle a intégré la Cinéfabrique, qui est une école supérieure, nationale supérieure de cinéma
à Lyon,
des rares gratuites. Alors il y a Lyon et maintenant et Marseille aussi depuis moins longtemps, et qui a la particularité, donc je le disais à l'instant, d'être gratuite et puis qu'on peut intégrer par examen, par concours, parce qu'évidemment il n'y a pas de place pour énormément d'étudiants. Oui. Il doit y avoir une grosse quarantaine ou une petite cinquantaine, ça doit être 49 étudiants par promotion. Et il se trouve que Louise Courvoisier est issue de la première promotion de la Cinéfabrique. Et donc Vingt dieux est son premier long métrage qu'elle ancre dans son pays, dans sa région.
Dans son village.
Le Jura, son village de Crécia, où elle habite avec ses frères et sœurs. Et ses parents, qui ont...
Il faut raconter l'histoire de la famille, enfin des parents, parce que c'est extraordinaire.
Un parcours assez étonnant pour être souligné, puisque ses parents sont des musiciens classiques.
Baroques,
et qui, un jour, ont décidé de rentrer dans le métier d'agriculteur, et c'est ce qu'ils sont devenus. Et ils font pousser des céréales, je crois, je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, c'est pas de l'élevage qu'ils font. Hein. On y a posé souvent la question à cause du thème du film dont on va parler. Mais non, il n'y a pas de vaches dans l'exploitation agricole familiale.
Il y a des chevaux, par contre.
Mais il y a des chevaux parce qu'ils font ça à l'ancienne.
Ouais.
Oui. Ils retournent la terre avec les chevaux, tout est fait.
En permaculture.
Exactement. Voilà. Et c'est quelque chose qu'elle n'a pas oublié, c'est pourquoi... Elle a choisi comme décor de son premier film l'endroit qu'elle connaissait le mieux, là où elle a grandi.
Alors, elle est née à Genève. Le père est suisse. Musicien baroque, vous l'avez dit. Elle joue du violon, de l'alto baroque, de la viole d'amour. Et la mère était chanteuse lyrique et violoncelliste. Mais ce sont des baroqueux, comme on dit. Et donc, ils font ce retour à la terre, ce qu'on appelait le retour à la terre à une époque. Et toute la famille, vraiment, vit à la ferme. C'est-à-dire que Louise elle-même, les parents, et puis les frères et sœurs, les compagnes et les compagnons des uns et des autres, à l'ancienne. C'est vraiment étonnant.
Oui, Et toute la famille a participé au film.
On va y venir parce que c'est un autre aspect singulier de ce film et puis de cette famille vraiment étonnante, les Courvoisier. On va avoir un aperçu de l'atmosphère, mais aussi des dialogues et des accents que l'on entend dans Vingt dieux en écoutant sa bande-annonce. Nous partagerons ensuite nos impressions respectives sur le film de Louise Courvoisier.
Ça tonne ?
8h45.
On partirait quelle heure déjà ?
8h30.
Anthony, c'est ça ?
Toton.
Tu sais conduire un camion ?
J'ai déjà conduit celui de mon père.
C'est toi le nouveau ?
Oui.
T'es en retard ? Allez, grouille ! Faut pas que ça va foutre !
Adieu ! T'es pas doué, toi.
T'habites tout seul ? Avec ma soeur.
Alors ?
Vous en pensez quoi, vous, de celui-là ?
Qu'est-ce qu'il en sait, lui ? Il est là pour faire le ménage.
Ta gueule !
Allez, casse-toi, c'est bon !
Monte !
Non.
T'as une sale tête.
C'est pas parce que toi tu peux pas que moi je peux pas.
Comment ça?
Quoi?
Tu fous, c'est quoi ce truc d'Obélix là?
Je dois du fromage. Si je me fais le compte d'or, je te le place 30 000 balles, mon gars.
Tu vas jamais la gagner, la médaille Toton.
Pourquoi?
Adieu.
Pourquoi que tu veux te lancer là-dedans, toi?
C'était le métier de mon père, il a claqué, alors. Ouais. Puis je sais pas quoi faire d'autre.
Pardon, Toton. Fais
chier!
Bah, c'est mal parti, si tu penses comme ça. C'est dans ta tête, ça.
La bande-annonce de Vingt Dieux qui résume assez bien l'esprit du premier long-métrage de Louise Courvoisier. On a entendu quelques-uns des principaux personnages du film. Alors, Louis-Marie, qui sont-ils et qu'est-ce qui leur arrive ?
Les personnages centraux du film, le personnage central du film, c'est Toton, bien sûr, avec sa petite sœur, dont va devoir s'occuper parce que, ils perdent brutalement leur père, qui a un accident, et ils se retrouvent seuls dans la ferme, l'exploitation.
Sachant que la mère, on ne le voit pas du tout. Apparemment, elle est morte aussi, mais on ne sait pas pourquoi.
Il n'y a pas de maman. Il y a Toton, Tony, mais tout le monde l'appelle Toton, vous l'avez entendu dans la bande-annonce, et il y a sa jeune sœur de 7 ans.
Et on
comprend au début du film qu'il faut qu'il l'amène à l'école et qu'il ne se lève pas à l'heure qu'il faut.
Et c'est elle qui le réveille.
Et alors, ce qui est très touchant dans ce passage-là, au moment où elle le réveille, elle a déjà enfilé le casque de la mob de son frère.
Parce que lui, il fait de la moto sans casque. Lui,
hein. Oui, ben oui.
Il le met quand il peut le mettre, oui, hein, quand il n'en a pas besoin.
Il n'y en a qu'un.
Donc c'est sa sœur qu'il porte. Voilà, et il va falloir qu'il gagne de l'argent parce qu'il faut, pour pouvoir garder sa sœur, il faut qu'il ait de l'argent. Et d'un coup, il a vend qui a un concours, le concours du meilleur comté.
Oui, ça c'est l'autre personnage du film, le comté.
Oui, meilleur comté, et le lauréat gagnera 30 000 euros. Alors vous imaginez, 30 000 euros.
Bah, ça fait rêver.
Ça fait rêver, et donc faire du comté, pourquoi pas, même si on ne sait pas du tout le faire. Il n'en a aucune idée de la façon dont on fait du fromage. Il habite dans une des régions où on produit ce fromage, c'est un des fromages français les plus célèbres, les plus fameux, consommés, je crois.
Oui.
Et donc le voilà parti avec ses copains et sa jeune sœur à vouloir produire un fromage.
Alors, ce Toton, au moment où son père meurt malheureusement, aussi, alors, on rentre
en état d'ébriété très avancé.
En étant assez éméché, même trop. Mais en fait, je vais dire le mot, je vais être un peu vulgaire, mais c'est un petit branleur quand même, Toton, quand on le découvre.
Complètement, oui.
Ceux qui sont avec lui, c'est même engeance.
C'est un peu des pieds nickelés à la campagne, quoi. Tous les coups sont permis pour
la fête. Voilà. Ils picolent. Les filles.
Puis,
tout tourne un peu autour de ça, quoi.
Voilà.
Alors, comme on disait chez moi à l'époque, c'est de leur âge. Sauf que lui, il se retrouve chargé de famille à 18 ans.
Et avec une petite sœur de 7 ans sur les bras.
Et aussi une propriété. Il serait censé quand même faire tourner, entre guillemets.
Alors, le réalisme s'arrête un peu là.
Oui,
parce qu'il y a des côtés tout à fait invraisemblables. Mais ce n'est pas l'objet du film.
Non.
L'objet du film, c'est comment ce gamin-là va être forcé, parce que la situation est celle-là, de s'occuper de choses dont il n'avait rien à faire. Et bon, il se fait embaucher, il se fait casser la figure d'ailleurs lors de l'embauche parce qu'il avait, au cours d'un bal de campagne, réglé son compte à des copains qui avaient
la fille.
Donc, il y a beaucoup de rudesse aussi dans ce film. C'est-à-dire que la vie ne fait pas de cadeaux. Hein, mon père a claqué, mais il ne s'étend pas plus sur la question. Voilà, il a claqué. Bon, et à l'enterrement extrêmement sombre, c'est simplement la mise en terre. Il y a quelqu'un, un homme du village, qui lui dit « Bon, si tu as besoin, tu peux me demander. » Il dit « Oui, tu ne peux pas me prêter de l'argent.
» Ça, justement, je ne peux pas.
Non, voilà. Il veut bien qu'on lui demande de l'aider, mais pas de l'aider, vraiment. Et il doit se débrouiller. Donc, il se fait embaucher dans une entreprise
qui fait du comté.
Alors, c'est pas vraiment là qu'il apprend, parce qu'il est, il doit aller chercher le lait avec le camion.
Bon, il fait le livreur.
Il fait tous les petits boulots. Quoi.
Oui, on appellerait ça un manœuvre un peu quasiment. Mais
oui,
voilà.
Et puis, il connaît rien du tout à la fabrication du comté.
On a l'impression que son père lui a pas pris grand chose.
Non, rien du tout. Et son père le prend pour un bon à rien
oui,
aussi.
Oui,
hein,
oui.
Voilà.
il n'a pas fait grand-chose pour apprendre non plus.
Hein. Ben c'est non. ça. Alors lui, c'est sûr. Mais oui. l'exemple paternel, le peu qu'on en voit, sachant que le père, lui, va se tuer parce qu'il est aussi à une fête et puis il a bu, il a tellement bu qu'il va se casser la figure en voiture.
Il se plante dans un arbre.
Il se plante dans un arbre. L'exemple paternel n'est pas terrible non plus, il faut reconnaître. Quoi. Et puis, il n'y a plus de mère.
Ouais.
Alors ceci, le fait qu'il n'y ait plus de mère peut expliquer le comportement du père, mais peu importe, Louise Courvoisier dans son film ne s'appesantit pas là-dessus. Et justement, elle a ce regard sans pathos. Elle aurait pu faire de ce film un film dramatique,
oui.
Ce qui n'est pas le cas, ça reste...
Bah,
on ne peut pas dire que ce soit une comédie non plus,
non.
Mais,
par moment,
mais c'est un peu plus léger, entre guillemets, que ce qu'on peut voir à l'heure actuelle concernant des films qui sont centrés sur le monde rural.
C'est-à-dire que c'est ni dans l'idéalisation,
ah, pas du
c'est
tout,
pas
oui.
L'amour est dans le pré, oui, c'est oui. Pas, et puis c'est pas les cartes postales, parce que c'est une région magnifique, le Jura, pour ceux qui la connaissent. Hein. On en voit quelques décors par moment, mais ça passe très vite. Il n'y a pas du tout le côté carte postale, elle n'insiste pas. C'est vraiment la rudesse de la vie à la campagne, les travaux qu'il faut faire, les vélages, parce que c'est beaucoup d'élevage là-bas.
Ah oui, oui,
parce que pour faire du fromage, il faut du lait, donc il faut des vaches.
Oui.
Et puis, bon, quand il y a une vache qui doit veler, si c'est la nuit, ben, on passe la nuit debout, on ne dort pas. On voit un vélage, d'ailleurs, mais c'est un véritable vélage pendant le film. Hein.
Oui, oui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il s'était préparé à passer 11 heures à filmer le vélage. Et ça s'est passé en même pas une heure, donc ça a été un peu brutal pour le tournage. Mais on y croit, on y est.
On y est.
Alors ça nous amène à parler d'un autre personnage très important du film, puisque le vélage a lieu dans la propriété d'une très jeune femme qui a à peu près l'âge, un peu plus âgée peut-être que Totten tout
un
de même.
Un petit peu, oui.
Et qui, elle, s'occupe de la propriété, puis elle qui est une femme, l'agricultrice, qui fait tourner la boutique.
Hein. Ah oui, et c'est pas...
Marie-Lise s'appelle-t-elle.
Oui. Et elle dit, ben, c'est lever à 5 heures du matin et coucher
à
22 heures. Voilà, hein. Donc, ce n'est pas la vie rêvée. Elle est toute seule pour tenir cette exploitation. Et ben, la vie est rude. Et alors, elle a un rôle un petit peu d'initiatrice pour Totten. Elle lui apprend la vie. Elle lui apprend...
Le modèle paternel qu'il n'a pas eu, c'est elle un peu qui va lui donner le modèle de ce que doit être une femme ou un homme de la campagne.
Absolument.
Quelqu'un de travailleur,
oui.
Il y a des horaires à respecter, il y a des travaux à faire, on ne peut pas déroger. On ne va pas se bourrer la gueule la veille, sachant qu'il y a un gros travail à faire le lendemain, parce que lui, c'est ce qu'il fait.
Oui.
Alors, tous les personnages sont vraiment étonnants. Aucun acteur professionnel.
Voilà.
C'est tous des gens du cru,
du
petit village.
Où a grandi Louise Courvoisier.
Où elle est toujours, d'ailleurs. Et,
ce sont ses amis.
Oui, c'est les amis. Alors, il y a les balles de campagne, il y a les rodéos de voitures.
Stock-car.
Stock-car.
Je ne savais pas que ça existait encore, moi.
Où on défonce les bagnoles. Et, c'est un peu comme dans le western, les rodéos.
Il y a un côté western rural. Hein.
Oui.
C'est une passionnée de western, d'ailleurs, Louise Courvoisier. Oui. Hein. Les films qu'elle a beaucoup aimés quand elle était plus jeune, c'est western. C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que nous, on est plus de la génération western, parce qu'il y en avait beaucoup à la télé quand on était enfant.
Oui.
On ne peut pas dire qu'aujourd'hui,
on soit envahi.
Une vingtaine d'années, on voit beaucoup de western à la télévision. Et elle adore le western.
Et elle, c'est un de ses buts avoués, de faire de ce film un western. C'est un western, on plonge dans cette aventure. Et d'ailleurs, on l'entend dans la bande-annonce, il y a un morceau de Jimmy Rogers.
Absolument.
Et on y est dans le western. Et en plus, elle n'a pas choisi au hasard, parce que c'est bien typique de la musique qu'on peut entendre dans un western. Et aussi les paroles, le titre de la chanson, c'est « Kisses, Sweeter Than Wine ». Autrement dit, les baisers sont plus doux que le vin. C'est ce que va apprendre Totten, justement, avec Marie-Lise notamment. Il faut bosser. Et elle lui apprend à bosser, mais elle lui apprend aussi ce que c'est l'amour.
À aimer, parce que c'est un gosse, en fait. C'est pour ça qu'il est très attachant. C'est un gosse qui n'a pas été aimé.
Oui.
Il a sans doute perdu sa mère très tôt. Et puis, il a un père qui, effectivement, n'a pas l'air de lui donner beaucoup d'affection.
Oui, puis qui n'est pas très causeux.
Ce qui est assez courant dans les campagnes, effectivement.
Ce qui est très intéressant dans ce film aussi, c'est le regard que pose la réalisatrice sur ces situations-là. On l'a déjà évoqué, ça aurait pu être un drame, ça aurait pu être... Et elle a un regard plein d'empathie, mais qui n'élude pas...
Pas tous les côtés rugueux,
dérangeants... Oui, bagarreur.
Manipulateur aussi. Parce que
tout à fait,
ce qu'on n'a pas dit, c'est que comment, en fait, ils vont se rencontrer, ils devaient se connaître déjà, mais pour de bon, avec Marie-Lise Totten, c'est que pour faire son fameux comté et gagner ce concours, ce qu'il s'est mis dans la tête de gagner un concours du comté, du meilleur comté qui lui rapporterait 30 000 euros, lui, il voit ça comme une manière facile de gagner de l'argent, alors qu'évidemment, ce n'est pas du tout le cas.
Mais il ne connaît rien.
Il ne connaît rien de la vie et au fromage. Et en fait, il faut du lait et du bon lait. Et lui, qu'est-ce qu'il a rien trouvé de mieux que d'aller voler le lait de Marie-Lise.
Oui, c'est ça. Parce que c'est un très très bon lait. Les vaches sont dans les prairies avec les fleurs.
Le fromage à goût fleuri.
Donc c'est un lait remarquable.
Ouais.
Et pendant qu'il est avec sa copine, ses copains font des prélèvements de lait dans les tonnes de sa copine, sous sa conduite.
En fait, il couche avec elle uniquement. Enfin, c'est ce que on comprend. C'est ce que lui se dit aussi.
Peut-être pas uniquement non plus.
Pas seulement.
Alors ça, oui, mais on va le voir après. Mais on peut y voir en fait, quelqu'un qui manipule une fille qui est en recherche d'affection, qui recherche une épaule, parce qu'elle est toute seule, pour faire tourner sa propriété. Et comprenant qu'il a cette carte à jouer, il rentre dans le jeu, alors qu'il n'a pas forcément envie de ça au départ. Hein.
Ah non, il est complètement en dehors de tout ça.
Oui.
L'aventure, la jolie fille, c'est une chose. Après, en faire quelque chose qui sera sa vie, non, il n'y pense pas.
Il a seulement 18 ans.
Ouais. Alors, ce qui fait la force du film, vous l'avez dit, Eric, c'est ces acteurs non professionnels. Casting sauvage, bien sûr, elle a eu beaucoup de mal à les trouver, parce que des acteurs non professionnels, oui, c'est une chose, trouver les gueules, mais après... Être acteur, c'est un métier. Et c'est pas leur métier à tous ces gens qu'on voit dans le film. Et Totten et Marie-Lise...
Aucun n'avait l'intention de faire du cinéma et apparemment n'a l'intention de poursuivre.
En tout cas, Totten, avec la qualité du film, était pressenti, d'ailleurs inscrit pour Meilleur Espoir. Il a dit qu'on le retire de la liste. Ça ne l'intéresse pas du tout. Tant et si bien que pendant le tournage, il a continué à faire le couillon. Et il s'est planté avec sa moto, il s'est cassé la jambe, ce qui fait que le tournage a été arrêté pendant 6 semaines. C'est considérable, surtout pour un premier film. Alors, elle a accumulé les difficultés, Louise Courvoisier, parce qu'il lui fallait des acteurs non professionnels. Un premier film, le producteur, il dit il faut un nom sur l'affiche.
Ben oui.
Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom.
Il faut ce qu'on appelle l'acteur bankable.
Ouais. Oui. Il n'y a pas de nom. Il y a des noms, mais pas connus.
Mais inconnus, oui.
Et il n'y en a aucun qui est connu.
Alors ça, d'une part, et elle veut faire un western et dont le sujet est le comté. C'est encore pire que les acteurs non professionnels, ça. Faire un film sur le comté. Et pour réussir son coup, eh bien, elle a continué. Il y a ce côté familial d'aller chercher des acteurs non professionnels. Et il y a toute sa famille qui participe au film. Ses parents, ses frères et sœurs, puisque c'est sa mère et un de ses frères qui ont composé la bande originale du film.
Oui.
C'est sa mère et son père qui l'interprètent. Il y a une de ses sœurs qui est au décor.
Un frère qui est aux lumières, au lumière, au éclairage.
C'est comme à la maison.
C'est comme à la ferme.
Et puis pour continuer la famille au sens large, c'est ses copains de promotion de la Cinéfabrique qui sont là aussi.
Il y a une Toulousaine d'ailleurs.
Oui, qui fait le montage.
Sarah Grosset,
qui est toulousaine et qui fait le montage. Il y a tout qui participe à la réalisation de ce film et qui fait finalement son identité et qui probablement a aidé, on l'imagine en tout cas, à ce que... On sent ça à l'écran, forcément.
Mmh. Ouais. Il y a une question que je me posais, parce que moi je suis un cinéphile occasionnel, contrairement à vous. Ce sujet de la vie à la campagne, la vie des agriculteurs, dans le roman récent, a été assez souvent traité, très bien traité, par des auteurs comme Pierre Michon, comme Richard Millet ou Marie-Hélène Lafont, mais qui parlait plus de la paysannerie française, qui est morte dans les années 80, avant que ça bascule vraiment dans le métier d'agriculteur, c'est tout autre chose. Est-ce qu'au cinéma, il a été traité, comme le fait Louise Courvoisier, mais de l'intérieur, par quelqu'un qui a grandi dans ce milieu, Paul ?
Alors, on pourrait citer Depardon, mais Depardon,
c'était des portraits documentaires, Profil paysan, c'était une série de documentaires.
Alors
de
que lui avait rêvé de devenir paysan, Depardon. Et il est devenu
cinéaste.
Et il sortait de ce milieu-là.
Mais plus récemment, ça me dit rien, quelque chose comme ça, quelqu'un qui en parle vraiment de l'intérieur.
Il y a ce film dramatique sur l'histoire de cet homme qui s'est suicidé. C'est son fils qui a réalisé le film.
Oui.
Avec
Canet.
Avec Guillaume Canet.
Guillaume Canet, oui.
Et qui, au bout du rouleau, s'est pendu. Et ça arrive encore et toujours, malheureusement.
Oui, alors malheureusement. Sur ce côté dramatique, effectivement, des suicides, malheureusement, dans le monde agricole. Mais comme ça, qui montre la vie à la campagne avec toute sa rudesse, toute la rugosité des rapports que les gens peuvent avoir entre eux. Parce qu'un des problèmes, on en parlait avant l'émission avec Paul, à la campagne, il y a le bon côté de l'absence d'anonymat, tout le monde se connaît, puis il y a le mauvais côté. C'est-à-dire bien qu'il y a des histoires, tout le monde est au courant. Vous ne pouvez pas être anonyme à la campagne.
Non, ce n'est pas possible.
Et si vous êtes considéré comme pas franc du collier, pas fiable ou feignant, je peux vous dire que c'est dur.
C'est peut-être pour ça aussi que les contacts sont rudes et que les mots sont rares. Parce que moins on en dit, moins on s'expose. Et on a besoin de cette distance pour exister ensemble. Ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est la trajectoire des personnages. C'est un film qui met en valeur le passage du brut de décoffrage de l'ado qui a un peu rien à foutre de tout.
C'est aussi un film d'apprentissage.
Hein. Voilà.
Il y a les romans d'apprentissage, mais c'est un film d'apprentissage.
Et puis il se confronte au
passage
fait qu'il découvre
adulte.
Que il connaît rien et qu'il va falloir apprendre quoi.
Il en prend conscience.
Il en prend conscience. Et ses copains lui disent non, tu n'arriveras jamais à faire du comté. Enfin bon.
Ah, d'ailleurs, lui-même finit par dire, et on l'entend un peu dans l'extrait, mais je suis une merde. J'arrive à rien. J'arrive à rien.
Et alors il prétendait.
Si tu commences comme ça, bon, tu feras jamais rien, c'est sûr.
S'inscrire un contour dont il ignore toutes les règles du jeu. Il se présente devant la personne qui accueille les compétiteurs et dit « Alors, vous êtes de quel AOP ?» Alors, il ne connaît même pas le nom. Il sait pas ce que c'est. Et il apprend au cours de démonstrations faites par une femme au cours de fêtes de village qui fait elle-même son comté.
Elle montre comment elle fait.
Devant
voilà comment
gens.
Il faut faire.
Alors, lui, il regarde après des vidéos sur Internet pour savoir comment se fabrique le comté. C'est d'ailleurs des vidéos en anglais sous-titrées.
Oui.
Bon, ça veut dire qu'il ne connaît rien à rien. Mais il rêve des 30 000 euros.
Oui, lui, il voit que ça, lui.
Oui, c'est ça.
Il y a quand même ses copains qui lui disent « Mais tu n'y arriveras jamais. »
Tu y arriveras
Mais il l'aide quand même, ses copains. Ils vont l'aider quand même.
Mais quand même,
y compris
ils vont
jouer le lait. Y compris à voler le lait. Alors, il y a une chose qui, moi, m'a frappé. Alors, c'est un film réalisé par une femme.
Oui.
Et les personnages féminins, et c'est en ce sens que c'est un film très discrètement féministe, les hommes, les frères de Marie-Lise, les deux frères, c'est deux brutes.
Oui.
Eux, ils cognent, ils savent cogner. À part ça, on ne sait pas trop ce qu'ils savent faire. Les copains de Totten et Totten lui-même, c'est un peu des petits branleurs qui pensent qu'à s'amuser, à se saouler,
à courir
les filles.
Voilà.
Mais les filles, par contre, la petite sœur dont ils s'occupent, c'est incroyable ce personnage, qui a 7 ans. Elle est craquante d'ailleurs, elle est formidable cette gamine. C'est un personnage étonnamment mûr, même plus mûr que son grand frère qui a 18 ans.
Et
à la fin, c'est presque elle qui s'occupe de lui.
Oui.
Et puis, il y a Marie-Lise, une femme à la fois très courageuse, très vaillante, travailleuse, mais fragile aussi sur le plan affectif. Et c'est grâce aux femmes que lui va évoluer, grâce à sa petite sœur et grâce à Marie-Lise et à cette fromagère aussi. Qui lui montre comment faire le comté. D'ailleurs, à la fin, ça se termine un peu là-dessus, pas tout à fait. On devine qu'il y a une porte qui s'ouvre et qu'elle va sans doute le prendre un peu sous son aile pour lui apprendre à faire du fromage.
Oui, et en respectant aussi le silence, quoi. Il essaie de s'approcher d'elle pour avoir des tuyaux. Elle ne répond pas trop à ses questions.
Mais comme il est là,
et puis il dit, aide-moi donc, là, gratte la toile. Voilà. Et elle le met... à faire lui-même, et non, elle ne lui donne pas les explications. Et oui, vous avez raison de le dire, on sent qu'il y a sans doute un itinéraire possible de ce côté-là, quoi, d'apprentissage de ce qu'est la vie et de faire le comté.
Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter.
C'est
qu'on a envie que
très beau film.
On a envie que Totten, à la fin, sache faire le comté et puisse s'en sortir et s'occuper de sa sœur.
Oui.
Et qu'ils grandissent, finalement.
Et qu'ils grandissent. Et on le voit grandir au cours
du film.
C'est
vrai, les garçons sont tous immatures et infantiles dans le film. Vraiment. Mais ça, c'est très... Moi, j'ai souvent vu ça dans les campagnes, parce que j'ai grandi à la campagne, pas dans le Jura. Mais c'est souvent les femmes qui tiennent un peu les fermes, qui tiennent les comptes, point de vue administratif et tout ça. De ce point de vue, on voit qu'elle sait de quoi elle parle, quand même, Louise Courvoisier.
Et elle sait de quoi elle parle, et elle y vit.
Ben, c'est pour ça qu'elle sait de quoi elle parle. Et c'est pour ça que je disais, c'est un film discrètement féministe, pas du tout sur le mode hystérique, agressif, bouffi de ressentiment des Sandrine Rousseau, Caroline Dehas et compagnie. Là, c'est tout autre chose. C'est pour ça que c'est un film, je trouve, très subtil, l'air de rien.
Il n'y a pas d'angélisme.
Pas du tout.
Ah non, non.
Nous allons clore cette première partie d'émission dédiée à Vindieu, le premier long-métrage de Louise Courvoisier qu'il faut aller voir à l'ABC à Toulouse et dans toutes les salles qu'il projette dans notre région. Je rappelle que vous pourrez échanger autour de ce film avec Paul et Louis-Marie mardi prochain, le 17 décembre, lors du Ciné-Parole qu'ils animent à 14h30 à l'ABC. Nous allons faire maintenant une pause musicale dans cette émission avant de parler de Thérèse, un autre très beau film qu'Alain Cavalier avait consacré à Thérèse de Lisieux. On y entend la musique de Gabriel Fauré. Et comme l'année du centenaire de la mort du compositeur se termine, je propose d'écouter le dernier morceau de son fameux Requiem, In Paradisum, dans une version de l'Orchestre National du Capitole dirigée par Michel Plasson.
Vivante Église, Éric Dupri.
Retour au direct pour la seconde partie de Vivante Église. Je suis toujours en compagnie de Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Nous allons donc revenir maintenant sur Thérèse, film réalisé par Alain Cavalier en 1986, sortie la même année. Cette œuvre avait été primée au Festival de Cannes, où elle avait reçu le prix du jury, et elle avait été aussi multi-récompensée au César, notamment dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleur espoir féminin pour Catherine Mouchet, l'interprète du rôle-titre, c'est-à-dire l'interprète de Thérèse de Lisieux. C'est vous, Paul Dima, qui m'avez suggéré ce film pour cette émission. Je vais vous laisser le présenter et nous dire pourquoi il a de l'importance pour vous, pourquoi vous lui êtes toujours très attaché.
Parce que d'abord, c'est un grand film et qui marque un passage important, un tournant important dans la carrière cinématographique de
Alain Cavalier,
qui est toujours vivant et pas jeune. Hein.
Il 93 a 4, ans.
93
oui. ans. J'ai vérifié d'ailleurs, vous dites qu'il est toujours vivant, mais oui, il est toujours vivant, Alain Cavalier. Donc, c'est la génération de Godard, hein, c'est la même. Hein.
Oui, donc ce film se situe 100 ans après la vie de Thérèse, de son entrée au Carmel. Elle est rentrée au Carmel en 1888, et il fait ce film en 1986. Peu de temps d'ailleurs après le décès de son épouse. Enfin, peu de temps, quand même un peu. Mais,
elle est morte en 72, hein, Irène Tinck.
Oui,
hein,
mais... elle est morte en 72.
Oui, je pense qu'il y a des liens, effectivement.
Oui, c'est ça, l'occasion d'une réflexion approfondie d'Alain Cavalier. Et c'est un film qui n'a pas eu grand succès auprès du public chrétien. Parce que...
Il y a eu un succès public.
Oui.
Il y a un succès critique, ça je viens de le dire. Et puis, bon, les prix qu'il a eus. Mais effectivement, à l'époque, dans mon souvenir en tout cas, il n'a pas été très bien accueilli dans les milieux catholiques.
Alors, pour plusieurs raisons, je pense. D'abord, en raison de la forme de ce film, qui a décontenancé beaucoup de personnes qui ne reconnaissaient pas dans sa Thérèse, c'est pas Sainte Thérèse, dans sa Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus. Parce que ce film n'a rien à voir avec la représentation sulpicienne d'une sainte éthérée,
béate,
les yeux levés vers le ciel. Le projet d'Alain Cavalier, c'est pas de faire un film sur Sainte Thérèse ni une hagiographie. Ce n'est pas l'histoire d'une sainte, mais le portrait d'une adolescente qui est amoureuse de Jésus, comme elle dit, mais il me court après. Et on voit comment la vie de Thérèse est menée par cet amour qui lui tombe dessus. Et elle n'a qu'une envie, c'est de rejoindre le Carmel.
Où sont déjà mariée avec le Christ.
Trois de ses sœurs, dont la mère prieure. Elle a à peine 15 ans quand elle fait ce projet-là. Et évidemment, c'est impensable. Eh bien, elle dit, si il faut, j'irai jusqu'à Rome pour demander au pape la permission. Et... arrivée à Rome, dans l'audience, on lui dit « Surtout, vous ne parlez pas au pape, il est fatigué. » Et alors, quand vient son tour de présenter, elle se précipite aux genoux du pape et lui dit « Très Saint-Père, je voudrais rentrer au Carmel. » Et le pape demande à son assistant « Qui est cette jeune fille ? Qu'est-ce qu'elle veut ?» Eh bien, c'est une jeune fille qui veut entrer au Carmel. Et le pape lui dit « Vous ferez ce que vous diront vos responsables de l'Église. » Et on voit la rencontre de M. Martin, donc son père, qui a déjà trois filles au Carmel, qui rencontre avec Thérèse l'évêque du lieu. Et le père dit, de toute façon, si vous refusez, elle ira jusqu'à voir le pape. Et on voit après l'histoire de Thérèse. Ce film a été utilisé par des paroisses de Toulouse pour ouvrir une réflexion, une récollection sur le temps de l'Avent. Alors, ça a un peu surpris au départ les personnes qui ont participé à cette récollection et qui ont dit après, mais c'est extraordinaire ce que ce film nous suggère comme démarche pour le temps de l'Avent. Ils ont dit, l'Avent c'est quoi ? C'est l'attente du Christ qui vient, mais on le fait tous les ans, alors on attend quoi ? C'est pas vraiment une attente. Et si c'était lui qui nous attendait ? Et on voit très bien ça dans le film, comment cette amour guide sa vie et est d'une certaine façon plus fort qu'elle. Alors, ce film est très bien fait parce qu'il est dans une épure tout à fait impressionnante. Il ne montre pas la vie de Thérèse, il nous montre ce qui anime la vie de Thérèse. Et ça, c'est très très fort.
On voit le quotidien du Carmel quand même.
Alors, on voit le quotidien.
Alors, des sœurs.
Parce que ce qui motive et le film et Thérèse, c'est le désir de rencontrer au plus vite.
Mais c'est une impatience, en fait.
C'est,
oui.
C'est une amoureuse.
L'histoire d'une impatience amoureuse.
C'est une amoureuse. Et c'est pas par hasard que, à 5 reprises dans le film, revient des citations du Cantique des Cantiques.
Oui.
C'est un chant de mariage de deux amoureux qui se cherchent, qui se perdent, qui se retrouvent. Et ça vient scander le film. Et c'est pas par hasard.
Louis-Marie, vous le souvenir que vous gardez de ce film, que vous aviez peut-être vu à l'époque quand il est sorti ?
Oui, c'est aussi le fait que le film marque par le choix qu'a fait Alain Cavallier de montrer le cheminement de cette toute jeune fille, parce que j'allais dire, c'est même
encore,
pas une jeune
encore
femme.
Encore une adolescente.
C'est à peine une adolescente. Et on voit combien, finalement, dans la filmographie et dans le cheminement d'Alain Cavallier, ce film arrive à point nommé et il est, par définition, une étape importante de sa réflexion cinématographique. Parce qu'il était comme ça, Cavallier. C'est à la fois une continuité et une rupture, parce qu'il avait fait des films classiques, mais avec des thèmes novateurs. Déjà, à l'époque, il avait fait un film sur la guerre d'Algérie.
Les deux premiers auront un lien avec la guerre d'Algérie.
Alors qu'à l'époque, on n'en faisait pas. Hein.
Non, années 60. Hein.
Mais, il avait fait des films de commande, comme la saga d'après...
La chamade d'après Sagan.
Une comédie, Le plein de super, des drames avec des vedettes, comme Un étrange voyage avec Rochefort.
Oui, il a fait un film avec Delon dans les années 60.
Et donc, il arrive là et il donne sa vision, sa façon de montrer cette histoire. Et c'est là où il se démarquera à partir de ce film. Il sera toujours dans l'épure. Et là,
de plus en plus dans l'épure.
On est dans l'épure parce qu'il n'y a presque pas de décor.
Oui.
Très peu de décor.
Il y a la grille du couvent. Et puis, tous les fonds sont des gouttières, ce qu'on appelle des gouttières. C'est-à-dire, c'est un drap neutre.
Il y a un gros travail quand même sur les visages, sur la chair, sur la lumière. C'est extraordinaire. Ce sont des tableaux, hein, d'ailleurs.
Oui.
Il n'y a pas de musique ajoutée, sauf le chant des religieuses. Et on entend beaucoup tous les bruissements.
C'est très incarné. Les étoffes sur les visages, ouais. Lorsqu'elles mettent leur voile ou l'enlèvent, on entend le crissement à chaque fois. Là. Ce qui donne un côté très charnel, d'ailleurs, au film.
C'est très incarné.
C'est un film sur l'amour fou, qui n'est pas charnel, mais tout de même, il y a ce travail sur la chair, sur les visages, sur les regards. Et puis, il faut qu'on en parle tout de même. Il y a Catherine Mouchet qui est phénoménale.
Il n'y aurait pas le film sans Catherine Mouchet.
Je pense que quand il l'a vue, il s'est dit tout de suite, c'est elle. Ça ne peut être qu'elle. Elle n'était pas connue du tout à l'époque. C'est son premier long métrage, d'ailleurs.
Et après, sa carrière n'a pas été émaillée d'autres...
Mais elle continue à faire des
films.
Elle en a même beaucoup à son actif, mais aucun grand rôle marquant.
Aucun grand rôle.
Ouais. Le plus souvent dans des seconds
rôles. César, meilleur espoir féminin.
Dans des seconds rôles, oui.
Oui, des seconds rôles, voire parfois même des troisième rôles. Alors, il y avait aussi ce côté, quand même, la ressemblance avec Thérèse Martin, devenue Thérèse de l'Enfant Jésus. Le visage un peu rond, et puis ce regard à la fois ardent et candide, extraordinaire, qui rappelle celui qu'on voit sur les photos de Thérèse de Lisieux.
Oui, oui.
Le film de Cavallier est d'une certaine façon une fiction biographique.
Oui.
On
peut dire ça, oui.
Parce que les dialogues sont très écrits, et puis les plans sont liés les uns aux autres par des fondus au noir.
L'emploi du fondu au noir. Je crois qu'il les mettait dans une pièce, il éteignait la lumière, il rallumait, c'était fait de façon très artisanale. C'est pour ça que ça donne ce côté suite de vignettes, de tableaux, un peu comme dans un vitrail.
Oui, et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours le passage au noir qui est aussi symbolique des déplacements, de l'avancée dans la vie amoureuse de Thérèse
et du Christ. Une forme d'ellipse.
Ah oui, tout à fait.
Oui, c'est propre au cinéma. C'est l'art de l'ellipse par excellence, le cinéma.
Les corps sont très présents. Alors, il y a aussi la sensibilité du 19e siècle. Finissant, il y avait la discipline, les choses comme ça. Mais Thérèse traverse ça. Il y a de très, très belles séquences. Quand elle entre au couvent habillée en mariée, et puis après, elle est accueillie dans la communauté et on lui coupe sa chevelure. Et donc, c'est l'abandon de la féminité, de la vie ordinaire pour une autre forme de féminité. Et on la voit prendre soin d'une religieuse âgée, lui faire sa toilette. Et cette sœur, elle voit que sur son fauteuil, il y a un petit médaillon d'un homme. Mais elle n'en dit rien et la sœur qui a vu qu'elle voyait lui dit « c'était mon mari ». Et je n'ai jamais pu le dire ici, mais en fait tout le monde le sait, et la prieure dit que c'est un secret de polichinelle pour tout le monde, mais on la laisse avec, voilà. Et elle lui dit, après la toilette que Thérèse lui fait, « donnez-moi un baiser, un vrai baiser ».
Oui.
Et on voit ce qui se joue là, c'est la spiritualité dans le soin du corps et dans l'attention aux personnes.
Au quotidien.
Au quotidien. Oui. D'un Dieu qui nous aime dans les petits gestes quotidiens. Et ça, c'est la force aussi de ce film.
Alors, dans ce film, il y a des images très marquantes. Il y a cette image terrible qu'on voit une sœur qui avale les crachats ensanglantés de la tuberculose. Thérèse, elle va mourir de la tuberculose par manque de soins aussi, il faut bien
aussi,
dire.
Oui. Bon,
rappelons qu'on est au 19e siècle. Oui. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a dérangé parfois dans le film, hein, ces côtés transgressifs tout de même hein. Et puis après, il y a des côtés, il y a des passages très comiques. Il y a celui où il y a la sœur alitée, et Thérèse est à côté, et la sœur lui dit « Rassurez-vous, au Carmel le plus dur, ce sont les 30 premières années. » Elle plaisantait entre elles.
Oui, tout à fait.
Ça reste une communauté d'êtres humains avec tout ce que ça implique. Alors, ça se termine, on ne va pas voir la mort de Thérèse, il ne la filme pas.
Non.
On voit juste une plume qui est rangée dans son fourreau. Oui. Parce qu'en fait, le film est évidemment inspiré d'Histoire d'une âme, qui est une sorte d'autobiographie que Thérèse a écrite.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est très fidèle. Hein.
Oui, très fidèle.
Très, très fidèle.
À la demande de la supérieure de la communauté qui lui dit « Écrivez ce qui se passe ».
Oui.
C'est la première chose d'ailleurs qu'elle lui demande quand elle arrive au Carmel. Elle lui donne un cahier, un crayon.
Vous écrirez pour moi.
On va conclure cette émission.
Oui.
En disant que c'est un film qui mérite d'être vu pour ceux qui l'ont déjà vu et qui mérite d'être découvert pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui est rarement programmé à la télévision.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est pas le film qu'on voit le plus souvent.
C'est un film très, très austère, mais très profond.
Voilà, et donc Alain Cavalier, qui avait reçu une éducation catholique, qui avait d'ailleurs été élevé dans un pensionnat catholique, dont il ne gardait pas un mauvais souvenir, faut pas se tromper, au contraire, mais qui disait qu'il était athée, se disait athée. Alors, est-ce qu'il faut le croire? Je ne sais pas. On peut se poser la question.
Pour parler des performances cinématographiques, on parlait de la maîtrise de l'ellipse avec les fondus au noir. Maîtrise, justement, de l'ellipse pour Cavalier. Et il raconte donc la vie de Thérèse en 452 plans.
Oui, c'est ça. Ouais.
C'est une très belle performance.
Et c'est d'ailleurs un peu
pour une heure et demie de film.
Il fera un peu ça après dans ses films suivants. Il va aller de plus en plus vers le documentaire, en fait.
Hein. Oui.
On filme à la caméra.
Il fait le film tout seul.
Tout seul. Sachant qu'à l'époque, déjà, il co-écrivait ses films avec ses comédiens.
Oui.
Ce qui était une des particularités aussi d'Alain Cavalier.
Et d'ailleurs, sa profession, il le dit maintenant, n'est plus cinéaste ou réalisateur,
mais filmeur. Oui, c'est dit filmeur. Je ne suis plus un cinéaste, je suis un filmeur. Eh bien, il est temps de conclure cette émission et de vous remercier tous les deux d'en avoir été encore les invités aussi passionnés qu'érudits. Je signale une nouvelle fois que vous animez la séance du Ciné-Parole consacrée à Vain Dieu, mardi 17 décembre à 14h30 à l'ABC où le film est à l'affiche en ce moment. Je rappelle aussi à nos auditeurs amoureux du 7e art qu'ils ont rendez-vous chaque mercredi à 19h sur Radio Présence avec N'oubliez pas l'ouvreuse, l'excellente émission de Louis-Marie Solaire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Merci à tous de votre fidélité à Vivante Église. À la semaine prochaine.